Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission « Une heure en Palestine », programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, votre replay mensuel est présenté par l'association France-Palestine Solidarité qui anime l'émission et je suis Bernard. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. La destruction de Gaza dure depuis plus de 20 mois. Toute la presse internationale est interdite de séjour dans l'enclave. Argument, la sécurité des journalistes, mais surtout, pour Israël, effectuer un génocide sans témoin officiel. Donc, le système D tente de pallier ce manque à l'aide de téléphones portables. Israël refuse l'entrée des camions chargés de vivres et les remplace par un soi-disant couloir humanitaire d'approvisionnement israélo-américain. Or, ce qu'il se passe autour de ces points de ravitaillement est un piège criminel. Les snipers tirent sur les files d'attente. Encore 75 morts ce dimanche 6 juillet. Tir et mort authentifiés par les secouristes encore présents. En France, une grande voix s'est fait entendre, celle de notre prix Nobel de littérature 2022, Annie Ernaux. Honneur à elle. Nous écouterons ce moment inoubliable qui dit haut et fort son dégoût pour ce qui s'apparente à un génocide et que la sociologue Stéphanie Latt-Abdallah nomme un futuricide. Néologisme qui dit précisément que c'est bien l'avenir de Gaza que l'aviation israélienne assassine. Le gouvernement français a haussé un peu le ton et même envisagé une réunion de reconnaissance de l'État de Palestine en Arabie saoudite. Quelle fut la réponse de Netanyahou ? Bombarder l'Iran. Classique, ouvrir un deuxième front pour enlever le focus sur Gaza. Une spécialité israélienne de guerre préventive qui, à l'exception de la guerre de Kippour, a toujours agi de la sorte. Quelle fut la réaction de notre président ? Israël a le droit de se défendre. Le triste constat suite à cet épisode, c'est que le droit international issu de la Seconde Guerre mondiale est mort. Place au droit du plus fort et blanc-seing à tous les États désireux d'envahir ou de bombarder leurs voisins. La Russie, c'est déjà fait. La Chine, un jour, pour Taïwan. Trump, pour le Canada ou le Groenland. Dans l'ordre de nos replays, nous entendrons Annie Ernaux, l'émission de Blast, Rhinocéros. Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, qui s'entretient avec Olivier Berruyer, créateur de la chaîne Élucide. Écoutons maintenant Annie Ernaux.
Depuis des mois, un sentiment n'a cessé de grandir en moi en voyant chaque jour les images tournées à Gaza par des reporters au péril de leur vie. École, immeubles et hôpitaux éventrés, enfants morts ou mutilés, toute une population fuyant en vain les bombes. Sentiment de quelque chose à faire que je ne fais pas et qui rend dérisoire et même lâche l'acte d'écrire. J'écrivais comme si je n'avais pas vu ces images effroyables, pas lu que l'obsession des habitants de Gaza, c'est de ne pas mourir éparpillés en morceaux, parce que pour eux, la réalité est maintenant la mort et non plus la vie. Je n'étais pas seule avec ce sentiment. La semaine dernière, nous sommes des centaines d'écrivains de langue française à avoir uni nos voix pour faire quelque chose. Dénoncer le génocide qui se déroule à Gaza, en direct, et dont toutes les preuves sont sous nos yeux. Blocus de la nourriture pour affamer les gens. Déplacement des familles comme des bêtes en transhumance. Massacre d'une population dont le seul tort est d'être née là. C'est l'anéantissement de la civilisation palestinienne qui est en cours par la destruction de ses monuments, ses traces ancestrales, par l'exil ou la mort de ses écrivains, de ses artistes, de ses cinéastes. À la place, une riviera et des touristes. Le silence est en train de se briser. Refusant d'être intimidée par les accusations les plus abjectes, la voix qui s'élève, je la souhaite puissante et déterminée pour exiger le cessez-le-feu définitif, le retour des otages israéliens et la libération des milliers de prisonniers palestiniens en Cisjordanie. En pesant sur le gouvernement français et les instances internationales. Cela suppose que cesse la répression des mouvements de solidarité avec la Palestine. Cela suppose que soit nommé et interrogé l'imaginaire raciste à l'égard des Arabes qui est au cœur de l'acceptation du martyre de Gaza. Il en va de notre humanité, comme l'écrit ces jours-ci la jeune écrivaine Gazaoui Nour El-Assi. Si les droits humains, la morale ont un sens, Gaza est l'endroit où ces valeurs doivent subsister ou mourir. Car si le monde peut nous regarder disparaître sans rien faire, rien de ce qu'il prétend défendre n'est réel.
Merci à notre prix Nobel pour cet appel. L'émission de Blast Rhinocéros.
Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de guerre, évidemment. On va vous parler de propagande de guerre.
Israël bombarde toujours, Israël crée des famines, Israël tire sur des populations affamées qu'elle entend de toute façon déporter, le génocide se poursuit à Gaza. En plus, Israël a ouvert un nouveau front contre l'Iran avec l'appui des États-Unis. Les ONG parlent déjà d'un millier de morts.
Il y a quelques semaines, pourtant, le vent semblait avoir tourné pour Israël.
Ses partenaires européens commençaient à douter. Les Français avaient haussé le ton, tout comme les Anglais. Les Allemands eux-mêmes osaient émettre des critiques, c'est dire.
Enfin, les accusations de génocide d'Israël envers les Palestiniens se multiplient, venant de l'ONU, d'ONG, de pays de plus en plus nombreux. Et en France, depuis deux jours, de la part de la gauche hors LFI, de la gauche non mélenchoniste, le mot a été assumé lundi lors d'un rassemblement au Trocadéro des dirigeants PS, PC et des écologistes.
Chez nous, dans les grands médias, ceux-là même qui avaient soutenu la guerre au Hamas, cette guerre juste, cette guerre nécessaire, ceux-là même commençaient également à se retourner, mine de rien, impossible de soutenir Israël tel quel plus longtemps, on était arrivé au-delà de l'acceptable.
Nous ne pouvons plus nous contenter du mot « horreur ». Il faut aujourd'hui nommer le génocide à Gaza. Cette tribune, parue en mai dans Libé, était signée par 300 écrivains. L'étau s'est desserré, pouvait-on lire un mois plus tard, toujours dans Libération, qui évoquait même un climat de censure autour de la cause palestinienne.
Alors évidemment, parmi les résistants de la dernière heure, il y a quelques noms qui nous ont fait un peu tiquer. Et puis même Libé, tiens, on sait qu'au cœur de la rédaction, ça n'a pas toujours été facile pour les journalistes qui voulaient visibiliser le drame que vivaient les Palestiniens.
Il y a un an, Arrêt sur Image nous racontait sur son site une réunion interne fort intéressante. On y apprenait que Dov Alfon, le rédacteur en chef de Libé, trouvait excessif l'intérêt de Check News pour la propagande israélienne. Dov Alfon, qui lui-même avait fait son service militaire dans les services secrets de l'armée israélienne.
Et quant à la censure dénoncée aujourd'hui dans Libé, elle avait été dénoncée à Libé en 2024.
En cause, un portrait de la représentante de l'autorité palestinienne à Paris, Ala Abou Assira, forte voix de la Palestine en France, titré le 24 décembre Libération sur son site web, et seulement sur son site web, alors qu'il était initialement destiné à être publié en Der, le portrait de la dernière page étant avec la une l'autre élément le plus symbolique du journal. Certains journalistes pensaient qu'il avait été publié dans les pages intérieures, mais ont découvert cette semaine qu'il avait été purement et simplement absent de l'édition papier. Bon, dis donc.
Mais on n'en était plus là il y a un mois. Macron promettait que la France allait reconnaître l'État palestinien et on commençait à évoquer une remise en cause de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël.
La propagande de Netanyahou était un peu moins relayée dans les médias français, un peu moins, hein, quand même. Et on commençait même à se demander si Israël allait pas devenir un État paria.
Mais pour faire oublier à la communauté internationale le génocide et les crimes de guerre, pour remobiliser ses alliés devenus timorés, Israël a décidé de lancer une nouvelle guerre.
Voilà, et ça a marché, la machine s'est remise en route. Après
tout, l'Iran, c'est un petit peu des Arabes.
Bah non, c'est des Perses.
Oui, bah c'est des musulmans.
Ah ça oui.
Bah oui, donc ça marche.
L'Iran finance le Hamas ouais, absolument. A organisé le 7 octobre.
Mais oui.
Et donc Israël est toujours dans une logique de se défendre et de combattre ses ennemis.
On parle pas d'Israël.
Israël ne combat pas l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique iranienne. C'est pas la population iranienne qui est en cause, ce sont les gardiens de la révolution.
Et voilà, c'est simple la géopolitique finalement. Hein. Bombardez-moi tout ça et on n'en parle plus.
Vous avez vu le bandeau? La France doit-elle soutenir Israël coûte que coûte? Regardez bien les bandeaux aujourd'hui, c'est du grand art. Allez, on continue.
Israël n'est pas le gendarme
non,
du monde.
Israël se défend.
Ils n'ont pas une délégation pour être
Israël
le gendarme du monde.
Ouais, et la France ferait la même chose si elle était attaquée. La France...
Quand Israël attaque, Israël se défend. On connaît la musique.
Mais oui, mais tant que ça marche.
Oui.
Israël,
ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Voilà. Ouais, moi, je suis journaliste.
Moi, je dis ce qui est aujourd'hui.
Des opinions.
Je dis aujourd'hui.
Les journalistes, ils n'ont pas d'opinion. Ils ont des faits, surtout Truchot. Alors, quand il dit que Israël se défend quand Israël attaque, c'est comme ça, c'est un fait.
Eh oui, parce que c'est un journaliste.
Défendez qui vous voulez, c'est votre problème. C'est votre problème avec votre conscience, parce que l'histoire parlera. Donc défendez qui vous voulez avec votre conscience, mais l'histoire vous regardera, et des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de morts vous regarderont. Faudra l'assumer un jour.
Voilà, lui il en a rien à branler. De toute façon, lui il dort bien, il mange bien, il n'est pas là pour faire dans la sensiblerie, il est là pour donner les faits.
Sauf que ces faits, ils ressemblent quand même vachement à la propagande israélienne. Vous, vous connaissez ça par cœur maintenant. Parce qu'il y a eu le 7 octobre, Israël peut tout faire. Pour sa sécurité, il faut qu'Israël transforme tout le Moyen-Orient, qu'il détruise tout Gaza, qu'il bombarde le Liban, le Yémen et qu'il agresse l'Iran. Il a le droit, parce qu'il y a eu le 7 octobre.
Pour une bonne propagande, il faut de bons slogans, si possible un truc ramassé, un truc court, qui reste bien dans la tête, un truc efficace. Et c'est efficace parce qu'on le répète, beaucoup. Alors le slogan, je vais vous en donner un là. Il a été élaboré en Israël, mais vous le connaissez par cœur, vous l'avez entendu mille fois sur tous les plateaux télé. Israël a le droit de se défendre, vous l'aviez chez vous, j'en suis sûr. On l'entend de nouveau ces jours-ci. À propos de ce slogan, de ce mantra, voici ce qu'écrivait Ali Rebbas dans Orient 21 il y a un an.
Un discours civilisateur, éradicateur, blindé dans son innocence démocratique, s'est déployé pour justifier la destruction de Gaza. Il repose principalement sur ce « droit de se défendre » que l'Occident mobilise à chacune de ses menées génocidaires. La violence illimitée se donne comme contre-violence. Ce schéma définit une disposition et une certaine logique qui parviennent à enrôler ou envoûter, à désarmer et paralyser même une partie de ceux qui en percevaient le mensonge et prétendaient y résister.
Être aux côtés d'Israël parce que ce régime est un régime criminel, le droit de se défendre, c'est le droit aussi de bombarder l'Iran. C'est l'article 51 de la Charte des Nations Unies, hein, c'est l'autodéfense, le droit de se défendre, la défense préventive. Quand un pays veut votre mort, vous avez le droit de le frapper.
Fallait oser quand même. Invoquer le droit international pour défendre un État qui le bafoue en permanence et dont le dirigeant fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Mais bon, on est sur CNews, hein, donc allons-y.
Là encore, retournement. L'Iran est agressé et Israël est l'agresseur. De quoi cette déclaration est-elle le nom?
Alors dites-vous, là, Sonia Mabrouk, elle est choquée par une déclaration d'Alma Dufour que moi je qualifierais simplement de purement descriptive. Mais bon, sur CNews, c'est comme ORN, soutien inconditionnel à Israël.
Ouais, on va mettre LCI. Normalement, c'est leur spécialité, l'international, à LCI. Sauf qu'ils ont Caroline Forest, quoi.
Et dans votre édito, eh bien, vous écrivez explicitement « Dans cette guerre, comme l'Ukraine, Israël se charge pour nous tous » de contenir l'un des prédateurs les plus toxiques de cette planète.
Mais on n'avait pas promis qu'on parlerait plus de Caroline Forest avant l'année prochaine?
Si, mais elle est tellement impliquée, là, dans cette guerre de civilisation contre l'axe du mal, que c'était impossible de pas la mettre, là, il y avait trop de trucs. D'autant plus qu'elle formule les choses assez clairement. Il y a deux camps, voilà. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de droit humanitaire, il y a deux camps, et elle a choisi le sien.
Ça n'est pas le régime islamique qui a directement attaqué en premier, mais c'est le régime islamique qui a attaqué en premier indirectement. Et Israël répond à cette attaque indirecte qui dure depuis avant le 7 octobre, mais qui s'est manifestée violemment le 7 octobre, en s'attaquant un après l'autre à ses ennemis.
Bon, c'est News LCI, ok. Allez, qu'est-ce qui s'est dit à C'est dans l'air, le service public?
On va écouter Pierre de Jong, c'est un ancien colonel, mais qui est présenté comme un spécialiste de la géopolitique. Écoutez ce qu'il dit, c'est assez étonnant.
Donc voilà, on va s'organiser pour... Et donc ils ont traité le problème de Gaza, qui était le problème le plus urgent. On voit qu'ils ont traité ensuite, la question du Hezbollah. Et puis voilà, il y a un processus. Et en final...
Il y a une stratégie, disons.
Voilà, il y a la cible ultime qui est effectivement, tant qu'on n'a pas réglé le problème et du nucléaire et de l'Iran, ils vont le traiter.
L'autre presse qui nous fait une to-do list, tu sais. Comme si tous ces peuples, c'était des problèmes que l'armée israélienne devait régler.
Et oui, mais on comprend mieux pourquoi Israël a tous les droits si on considère que il règle presque nos problèmes à nous, il se salit les mains pour nous. Israël fait le sale boulot que nous, on n'ose pas faire. Israël fait le sale boulot. C'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui a déclaré ça en marge du G7. Et ça aussi, figurez-vous, c'est un slogan israélien. Un slogan destiné à être martelé en Europe pour tempérer les critiques en provenance des démocraties libérales.
Encore une fois, Israël ne mène pas cette guerre de gaieté de cœur. Elle est en train de faire le sale boulot pour toutes les démocraties occidentales qui n'ont pas pu précédemment mener cette guerre contre l'Iran.
Israël n'est pas un ennemi du droit international. C'est avant tout notre allié à nous, les démocraties. Et si tout ce qu'il fait, c'est pour la démocratie, alors c'est bon. Alors il y a des victimes iraniennes, oui, mais bon, c'est ça aussi se salir les mains. Vous savez, la guerre, c'est pas joli joli.
Eh non, il y a toujours des victimes, c'est terrible, mais c'est comme ça. Et puis il y a des victimes israéliennes aussi, hein, faudrait pas les oublier. Hein. Elles sont peut-être moins nombreuses, mais dans les médias français, on les voit beaucoup plus.
Les seules victimes qui comptent sont les victimes israéliennes. Dans les JT, ce sont bien souvent les seules victimes de la guerre pour qui on a peur, pour qui on s'inquiète, à qui on donne la parole. D'ailleurs, c'est plus facile que d'aller interroger les habitants de Téhéran. À Tel Aviv, au moins, on parle anglais. On parle français même parfois.
Evan, dans sa vieille résidence, ne dispose pas d'abri en cas de bombardement.
On ouvre la porte, alors c'est absolument pas recommandé, mais c'est vraiment dans le pire des cas, on a cette espèce de débarras cave comme ça, où on a mis des chaises.
Ces abris, on les avait déjà beaucoup vus dans les médias français. Israël en manque, apprend-on dans Le Monde, particulièrement dans les territoires qui comptent le plus d'Arabes. Tiens.
Il faudra aller sur le site de RFI ou lire L'Humanité pour apprendre que ces Arabes d'Israël se voient même parfois refuser l'accès aux abris. Ce n'est pas pour vous. En Israël, le racisme prive les Palestiniens d'accès aux abris antimissiles.
Un aspect de la guerre qui ne sera pas discuté en plateau sur les chaînes françaises. En France, Israël est une grande démocratie, pas un état d'apartheid. N'oubliez pas que l'ennemi, là, c'est l'Iran. Concentrez-vous un peu.
Quotidien s'est rendu dans une manifestation contre la guerre. Une manifestation que le journaliste envoyé sur place ne semblait pas complètement cautionner.
Et là encore, vous allez voir, le mécanisme est le même, vous commencez à le connaître un petit peu. Avant de pouvoir exprimer leur solidarité avec le peuple iranien, on va exiger des manifestants d'abord qu'ils condamnent le régime iranien.
Et dans la manif, ils ont retrouvé Rima Hassan et elle n'a pas échappé à ce traitement.
L'Iran, c'est une puissance déstabilisatrice dans la région.
Israël en est une aussi.
L'Iran.
Israël en est une.
C'est l'Iran.
Qui attaque aujourd'hui tous les pays de la région?
C'est l'Iran qui déstabilise la région par des...
Qui a attaqué? La Syrie, le Liban, la Palestine.
Rima Hassan, c'est quand même assez rare qu'on lui tende un micro si c'est pas pour l'engueuler. Mais on y reviendra plus tard, vous en faites pas.
Et oui. Et par contre, à l'occasion de cette offensive contre l'Iran, on a beaucoup revu Olivier Rafovitch, le porte-parole de l'armée israélienne, qui lui peut parler tranquillement et reçu tous les jours. En quelque sorte, tout est rentré dans l'ordre.
On l'a déjà dit depuis deux jours, on le répète, et on peut aussi le répéter par vos ondes. Nous demandons aux populations civiles de ne pas être présentes dans les endroits où il y a des ministères du renseignement, des centres des gardiens de la Révolution, des bases militaires et évidemment des installations reliées au nucléaire. Les gens le savent, ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe dans leur région.
Oui, voilà, il l'a déjà assez dit et répété, donc maintenant, si vous vous faites tuer, c'est qu'à un moment, il fallait écouter BFM, hein ?
Oui, enfin, peut-être qu'ils savent pas forcément s'il y a des bâtiments secrets du gouvernement à côté de chez eux.
Si, ils savent.
D'ailleurs, à l'occasion des bombardements d'Israël sur l'Iran, il y a un grand classique de la propagande de guerre qui a fait son retour, c'est l'éloge de la précision des frappes du camp de l'Occident. Par exemple, la France a pas trop aimé que l'armée israélienne frappe la prison iranienne dans laquelle sont détenus deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Là-dessus, Joshua Zarqa, ambassadeur d'Israël, a dû s'expliquer sur France Inter.
Pourquoi avoir frappé autant de cibles non militaires, infrastructures énergétiques, siège de la télévision d'État, prison d'Evin, ce que la France a jugé inacceptable, c'est une prison...
Alors, parlons de la prison d'Evin. Mm. Vous savez, si nous sommes capables de faire entrer un missile de 1500 km dans une fenêtre d'un scientiste ou d'un dirigeant militaire iranien, nous sommes capables de toucher une porte de prison sans que les prisonniers ne soient touchés ou soient en danger.
Mais alors si les tirs sont si précis que ça, quand faut viser des trucs en particulier en Iran, là, comment ça se fait qu'ils aient l'air beaucoup plus brouillons quand ils explosent tout dans la bande de Gaza en tuant des milliers de civils, des femmes, des enfants?
Eh bien, figurez-vous qu'Apolline de Malherbe commence à se poser des questions.
La précision à la fois du renseignement mais aussi des frappes sur le territoire iranien et l'incapacité d'Israël à être aussi précis à Gaza et donc à faire tant de morts.
Le 19 juin, Apolline de Malherbe a reçu l'ambassadeur israélien en France et elle a timidement évoqué le sort des civils iraniens.
Vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a eu certaines attaques auxquelles vous avez renoncé parce que vous vous êtes dit qu'il pourrait y avoir des civils touchés.
Tout à fait.
Vous avez parfois retenu le gouvernement israélien, l'armée israélienne.
C'est l'armée.
S'est dit,
Et vous savez, dans chaque groupe...
Mais là, Pauline, c'est le moment, on va au bout de ta logique. C'est le moment de lui demander pourquoi ils se retiennent jamais quand c'est des Palestiniens en face.
Elle n'ira pas si loin, finalement. Durant toute l'interview, l'ambassadeur a pu déployer la communication officielle d'Israël sans que la journaliste en face ne lui rappelle des faits, des chiffres, des violations de droits.
Quand est-ce que ça s'arrêtera côté Gaza?
Dès qu'ils libéreront nos otages.
Le seul objectif, c'est la libération des otages. Si les otages sont libérés...
La guerre est terminée.
La guerre est terminée.
La guerre est terminée.
Pas un mot sur le génocide, pas un mot sur les colonisations, pas un mot sur la famine, bref, pas un mot sur les Gazaouis. À peine un petit... ça suffit là, un petit peu là quand même, quand est-ce que ça s'arrête? Non, parce qu'on a arrêté le soutien inconditionnel, hein. Attention, hein. Si vous continuez, moi je vais finir par voter Dominique de Villepin en 2027, hein. Attention à vous.
C'est à se demander ce qu'il faut faire pour que malgré tout ce qui se passe un peu partout, on continue à parler du sort des populations gazaouis dans les médias français. Et c'est là qu'on va vous parler un peu de la fameuse flottille. Le Madeleine, vous savez, ce bateau affrété pour apporter de l'aide humanitaire, pour briser le blocus sur Gaza. Pour rappel, dans l'équipage, il y avait 12 personnes, dont l'eurodéputée Rima Hassan, l'activiste Greta Thunberg, et il y avait le journaliste Yanis Mamdi, notre collègue de Blast. Et là, on va commencer par vous donner un peu de contexte. Depuis 2007, avec la complicité de l'Égypte qui ne laisse pas passer grand-chose par la frontière sud, Israël soumet Gaza à un blocus qui a isolé, appauvri et affamé les Gazaouis.
Et pour briser le blocus, il y a un mouvement de diverses associations de solidarité avec la Palestine qui a déjà affrété plusieurs flottilles.
La flottille de la Liberté a quitté la Crète ce vendredi direction la bande de Gaza. Quelques 70 militants pro-palestiniens issus d'une vingtaine de pays participent à cette opération qui vise à briser le blocus imposé depuis 9 ans par Israël au petit territoire palestinien.
Là, c'était la tentative de 2015. Quelques bateaux ont parfois réussi à atteindre la bande de Gaza, c'est arrivé. Et d'autres fois, les bateaux ont été refoulés par l'armée israélienne. Par contre, à chaque fois, la presse du monde entier en a parlé, et c'était aussi ça, le but de ces opérations.
Des opérations dangereuses, car il est déjà arrivé qu'Israël ouvre le feu sur ce genre de convoi. En 2010, l'armée israélienne a pris d'assaut certains bateaux et a tué 9 personnes. Et pourtant, il y a eu d'autres flottilles par la suite.
On vous dit ça pour que vous preniez la juste mesure du courage qu'il a fallu à Greta Thunberg, à Rima Hassan, à tout l'équipage en fait, parce que c'est pas le genre de truc qu'on fait juste pour faire des likes. Pourtant, écoutez comment on a parlé de cette opération dans les médias français.
La croisière s'amuse,
exactement. Alors on est plutôt entre une colo UCPA et la croisière s'amuse.
Ouais. Cette mise en scène narcissique, cette croisière médiatique où la cause humanitaire sert de décor aux égos d'influenceurs Instagram, ne changera rien au sort des Palestiniens.
Bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent à porter pour 30 jours de couches pour quelques familles palestiniennes.
Enfin, ce navire, on dirait un peu le vaisseau emblème de l'islamo-gauchisme. Le point commun entre tous ces gens est simple, c'est la haine de l'Occident.
Voilà, enfin, voilà, le spectacle est terminé, je pense que c'est la bonne définition.
Alors on a tout entendu, que le bateau serait financé par le Hamas, que les femmes qui étaient à bord ne feraient ça que pour la fame, qu'ils n'attendaient qu'une chose, c'était de se faire arrêter, et puis qu'il n'y avait même pas d'aide humanitaire sur le bateau, enfin bref, tout et n'importe quoi.
Alors oui, cette opération était là pour faire parler, c'est vrai, pour faire parler de Gaza. Et à vrai dire, dans les médias du monde entier, et même en France un petit peu, ça a plutôt marché, ça a relancé l'intérêt pour ce qui se passait dans ce territoire martyr.
Mais sur les plateaux, on a surtout beaucoup parlé de Greta Thunberg et Rima Hassan. Surtout de Rima Hassan d'ailleurs. Rima Hassan, on lui tend pas souvent le micro, mais par contre, qu'est-ce qu'on parle d'elle? Et souvent, en fait, c'est juste méchant.
Face à la détresse des Gazaouis, il fallait oser faire semblant de leur apporter ses restes de quinoa, un paquet de farine et 3 serviettes hygiéniques pour le plaisir de mettre en scène son arrestation programmée.
Bon, c'est Sophia Aram, c'est de l'humour, il paraît, mais c'est de l'humour qui s'acharne quand même pas mal. La même Sophia Aram a publié aussi un billet écrit dans Le Parisien. Là, elle y va sur Greta Thunberg, qu'elle appelle Miss Chris Prolls. C'était tellement gênant que la Société des journalistes du Parisien a produit un communiqué, on vous le cite.
Nos lecteurs, dont nous répétons aujourd'hui qu'ils ont été insuffisamment informés dans nos colonnes du drame qui se joue à Gaza, sont en droit d'attendre autre chose d'un journal d'information de qualité, lequel écrit en titre, au lendemain de la chronique de Sophia Aram, que « le Proche-Orient demande de la nuance ». Quelle ironie. Et puisqu'on parle de nuance, elle en dit quoi Caroline Fourest?
Ah non.
Elle en dit quoi dans sa chronique sur LCI? Fourest en liberté, hein? Parce qu'on vous rappelle qu'elle est toujours en liberté, Caroline Fourest.
Elle court toujours.
Je suis persuadée que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont suivi ces images, ils sont persuadés qu'il y a encore aujourd'hui, alors qu'il est, un blocus humanitaire qui empêche l'aide humanitaire et notamment l'aide alimentaire d'arriver à Gaza.
Bah en fait, oui.
Oui, à un moment, l'armée israélienne avait tout bloqué, absolument tout, à tel point que la communauté internationale avait été obligée de réagir, quand même un peu. Au bout de quelques jours, Israël a été obligé de laisser passer quelques camions quand même.
Ouais, bah c'est pas du tout comme ça qu'elle le raconte, Caroline Fourest.
Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire définitivement à Gaza, elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels.
Eh oui, mais c'était pour tout bien réorganiser. Israël a tout bloqué, mais c'était pour leur bien.
D'ailleurs, pareil, aujourd'hui, quand ils tirent sur la foule qui attend l'aide humanitaire, bon, c'est des morts tous les jours, mais c'est pareil, ça doit être pour leur bien, j'imagine.
Là-dessus, je serais curieuse d'avoir la version de Caroline Fourest.
Oh, tu penses bien qu'elle va trouver une explication, en toute liberté, t'inquiète pas.
Évidemment, pour en revenir à la flottille, on n'attendait pas autre chose de la part de ces commentateurs malveillants. Ils étaient dans leur rôle et finalement, ils n'ont pas empêché les autres journalistes d'un peu partout de parler quand même du blocus à Gaza.
Parce que d'habitude, les manifestations de solidarité pro-Palestine, quand il n'y a pas Rima Hassan pour se défouler, les grands médias n'en parlent juste pas. C'est plus simple. La caravane pour Gaza, par exemple, n'a pas été beaucoup couverte. Pourtant, il y avait des Français dedans.
La Marche mondiale pour Gaza est une initiative internationale coordonnée de 3 jours qui vise à faire pression pour obtenir un cessez-le-feu et pour que l'aide humanitaire entre dans l'enclave palestinienne. Les participants doivent partir d'El Arish dans la péninsule du Sinaï où ils devraient en principe entamer une marche d'environ 50 km jusqu'à Rafah. Mais Israël a plusieurs fois demandé à l'Égypte de stopper les militants.
Des centaines de personnes de la société civile venues de tous les continents, mais à l'arrivée, des dizaines d'entre elles ont été retenues au Caire ou violemment refoulées par les autorités égyptiennes. Parmi les Français présents, des militants, des élus, des avocats, des médecins.
Donc on en parle un peu sur Euronews ou TV5 Monde, mais ça n'a pas déchaîné les passions qu'a pu déchaîner le Medline.
Donc en ça, la présence de Rima Hassan a aidé, on peut le dire. Une fois rentrée en France, elle a donné une longue interview à Radio Nova. Une interview dans laquelle elle explique être toujours surprise de voir ce qu'elle déclenche en France et que même là, elle ne s'attendait pas à ce que sa présence attire tant l'attention des commentateurs.
Enfin voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a téléguidé. On a répondu à beaucoup de sollicitations et il était de notre responsabilité d'informer sur ce qu'était la coalition, l'objectif, de mobiliser au maximum
l'opinion. Je crois que le message est passé.
Voilà, pas donc mal. On s'attarde pas trop sur les critiques et on fait plus de place, si vous voulez, à la mobilisation et à l'amour qu'on reçoit. C'est plus
une fois la députée européenne rentrée en France, bon, bah, tout le monde est passé un peu à autre chose. Fourest, Wössner et les autres se sont calmés. Ils parlaient pas plus de Gaza, hein, je vous rassure. D'autant plus que là, il se passait des trucs. Israël avait attaqué l'Iran.
Sauf que notre collègue Yanis, lui, était toujours détenu. Il n'était pas dans le vol de Rima Hassan. Il devait rentrer, mais vu que l'Iran a répliqué, l'espace aérien a été fermé, les vols ont été annulés et nous, en France, on n'avait plus trop de nouvelles. Israël détenait toujours illégalement un journaliste français, mais bon, dès le début, de toute façon, Yanis, c'était pas un sujet. Hein. D'ailleurs, souvent, il était qualifié de militant sur les plateaux et dans la presse.
Mais pas de bol, hein, Yanis, pour eux, t'es pas un confrère, voilà. T'es un militant.
Il y a un de vos confrères journalistes, peut-être vous pourriez avoir un mot de solidarité avec lui. Mais j'entends pas la presse dire, il y a une personne qui est sur ce bateau pour documenter. Peut-être vous pourriez appeler à sa libération. Monsieur, je dis,
si, ils ont
je
remarque
juste que vous n'êtes pas capable d'avoir un mot de compassion pour un de vos collègues journalistes et je trouve ça extrêmement grave. Mais
je suis étonné que vous n'ayez pas plus réagi parce que dedans, il y a un journaliste quand même qui s'appelle Yanis Mamdi qui faisait son devoir de journaliste.
Très largement.
Bah écoutez, je n'ai pas entendu, des réactions scandalisées des médias là-dessus.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très claires.
Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore très claires. Non mais c'était hyper clair. Il était journaliste, il avait son matos de journaliste, il faisait son travail de journaliste. Il n'y a pas plus clair.
C'est que là, j'ai passé une semaine en prison en Israël parce que j'ai juste voulu faire mon métier de journaliste. C'est ça le plus important à retenir. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire documenter une action humanitaire et pacifique, a été vu comme un crime par Israël. Et pour ça, ils ont estimé que je devais aller en prison.
Alors, on vous l'a dit, l'opération a quand même attiré un temps l'attention sur Gaza. Ça se voyait sur les réseaux. Regardez, ça, c'est une simple recherche Google Trends. Gaza. À quel moment les gens en France ont tapé Gaza dans Google ces 12 derniers mois? On voit un pic le 21 mai. Ce moment-là, c'est la crise des camions humanitaires que Caroline Fourest nous a super bien expliqué tout à l'heure en toute liberté. Là, tout le monde en parle. Hein. Même le nouveau pape demande à Israël de laisser rentrer les camions. Et là, c'est le 9 juin. Le Medline est accosté par l'armée israélienne, grand rassemblement à Paris, et chez eux, les gens, ils ont tapé Gaza pour voir ce qui se passait là-bas, ce qu'ils avaient peut-être pas fait depuis quelques mois. Et là, on vous parle pas de ceux qui ont tapé Rima Hassan, on vous parle juste de ceux qui ont tapé Gaza, voilà, c'est tout bête à vérifier, on peut faire ça en 2 minutes.
Bon bah apparemment, sur les plateaux, c'est pas le genre de truc qu'ils s'amusent à vérifier. Pour eux, carrément, cette opération, elle aurait empêché qu'on parle de Gaza, qu'on pense à Gaza.
Est-ce que c'est pas gênant, malgré tout, ce soir, qu'on s'alarme du sort de cet équipage, des membres de cet équipage qui, dans quelques heures maximum, sera de retour chez eux, et non pas du sort des Gazaouis? Est-ce que cette opération, finalement, n'a pas eu l'effet inverse de celui escompté en détournant l'attention de la tragédie qui se passe en ce moment à Gaza pour se préoccuper du sort d'une, de ces activistes.
Ah bah oui, mais c'est sûr que sans la flottille, ils auraient certainement voulu passer toute la soirée là-dessus, c'est clair.
Oui, bah il y a Yves Tréhard après, tu vas voir, lui-même, il aurait aimé ne parler que de Gaza pendant 3 semaines, même tu le laisses faire, lui.
On voyait...
Pardon ?
On a pu vous suivre sur les
Pardon,
réseaux sociaux.
Pardon, pourquoi vous en parlez
avec,
ce soir ?
Avec des selfies, on avait l'impression de voir, et je reprends cette expression de l'ambassadeur d'Israël à
Paris... Donc vous reprenez la propagande israélienne.
Qui parle de la croisière s'amuse, ça ressemblait étrangement à ça.
Et moi, je savais pas que la croisière s'amuse, il l'avait même pas trouvé tout seul. C'est nul à chier, mais ça vient même pas d'eux, quoi. C'est, ça aussi, c'est de la repompe de l'ambassadeur israélien. J'hallucine.
Et des fois, plutôt que de reprendre les mots de l'ambassadeur d'Israël en France, ils ont repris les mots de l'ambassadeur de France en Israël.
Ah bah,
c'est mieux.
Rien à voir.
Attention, on est sur le service public.
Ça change un peu.
Éric Danon, l'ancien ambassadeur de France en Israël, il disait qu'il y a quelque chose de condescendant vis-à-vis des Palestiniens quand il s'agit de leur dire ce blocus que vous n'êtes pas parvenu à briser depuis des années, nous, on arrive avec un voilier et on va le briser. Voilà, ce sont ces mots. Est-ce qu'il n'y a pas une opération de communication ?
Vous vous rendez compte à quel point c'est choquant ? Les éléments de langage là que vous reprenez
de
l'ambassadeur.
Depuis, tout le monde est rentré en France, Yanis y compris, et plus personne ne parle de Gaza. Voilà, évidemment, l'attaque israélo-américaine sur l'Iran a pris toute la place, et vous l'avez vu, sur les plateaux français, tout le monde s'est réaligné sur le soutien à Israël.
Et en même temps, là, Israël nous propose un vrai méchant. Parce que c'est vrai que le régime iranien, c'est pas nos potes, c'est des fanatiques religieux.
Ouais.
Sauf que ce sont des fanatiques religieux attaqués par d'autres fanatiques religieux. Parce qu'Israël, leur projet, il est aussi religieux. C'est l'extrême droite qui est au pouvoir là-bas. Ça devrait pas être nos potes non plus. Et Trump. Mais Trump, il est pas moins religieux. Le mec est persuadé que c'est Dieu qui l'a sauvé du tireur qu'il avait visé et qu'il a loupé de peu. Maintenant, il se raconte que Dieu l'a sauvé pour qu'il attaque l'Iran. D'ailleurs, il joue de ça, Trump. Plus il va en guerre, plus il invoque Dieu. Il a posté ça il y a pas longtemps sur son réseau social. Il est en mission divine et rien ne pourra arrêter ce qui va venir.
On a affaire à des fous furieux. Et au lieu de calmer le jeu, ben en France, et particulièrement dans les médias, on prend parti. Pourquoi ? Il y a le racisme, bien sûr, l'idée d'une guerre de civilisation qui serait en cours et dans laquelle on serait évidemment du côté d'Israël. Alors nous, en France, on parle pas de Dieu, hein. Nous, c'est la laïcité, nous c'est la démocratie. Nous, c'est le camp occidental, on est dedans parce que c'est le camp de la démocratie. Israël est une grande démocratie, les États-Unis aussi, c'est une grande démocratie, hein. Même avec l'esclavage, même avec la ségrégation, grande démocratie. Nous aussi, la France, grande démocratie, même quand les femmes votaient pas, même quand on réprimait nos colonies hier en Algérie, aujourd'hui en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Tout ça, c'est le camp des démocraties, hein.
C'est pas du relativisme ce qu'on vous dit là. C'est juste que si on était vraiment du côté des lumières, du côté des démocraties, du côté du progrès, on ne pourrait pas soutenir ce que fait Israël comme on le fait là.
Mais, c'est-à-dire qu'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui.
Catherine Tricot est journaliste et éditorialiste, et sur le plateau de France Info, elle a essayé de dénoncer cette hypocrisie qu'on observe en France. Hors de question pour elle de soutenir Israël au nom de valeurs que cet État ne respecte absolument pas.
Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé.
Mais ça m'est égal, ce n'est pas une valeur.
Ce que vous allez entendre là, c'est ce que vous pourriez entendre si les journalistes faisaient correctement leur boulot, s'ils ne répétaient pas bêtement les éléments de langage des ambassadeurs d'Israël.
Et si les plateaux étaient un peu équilibrés aussi, parce que là on voit qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça, vous allez voir, c'est terrible pour eux.
N'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare qu'Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza.
C'est Israël qui a été attaqué le 7 octobre.
D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre.
Voilà ce que vous pourriez entendre sur les plateaux si le racisme et les partis pris idéologiques du petit monde médiatique français n'avaient pas pris toute la place.
Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là sur les plateaux, là, nous ressortir toujours les mêmes trucs, là, Israël a le droit de se défendre, c'est la seule démocratie de la région, Israël se salit les mains pour nous, ils font le sale boulot, je sais pas quoi, toute cette propagande guerrière dégueulasse, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer de nous habituer à l'horreur, à l'inhumanité.
Et d'ailleurs, est-ce que tous ces gens-là n'ont pas déjà succombé? Est-ce qu'ils ne se sont pas déjà transformés?
Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout.
Donc voilà, vous non plus, ne succombez pas. Gardez votre esprit critique. Continuez à vous indigner. Continuez à dénoncer le génocide à Gaza, les rafles de Retailleau. Mobilisez-vous pour les pauvres, pour les exilés, pour les minorisés, pour toutes celles et ceux qui sont piétinés par ce gouvernement toute l'année. Continuez à lutter et à raconter ces luttes. C'est le seul moyen de montrer aux brutes et aux vrais barbares qu'ils ne gagneront pas la partie.
L'émission de Blast, Rhinocéros. La parole à Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, qui s'entretient avec Olivier Berruyer, créateur de la chaîne Élucide.
Agnès Levallois, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, l'IREMO, consultante sur le Moyen-Orient et chargée de cours à Sciences Po. Vous êtes à l'origine du Livre noir de Gaza, aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage qui documente en profondeur l'ampleur de la tragédie qui se déroule actuellement à Gaza. Vous avez réuni une grande quantité de rapports, d'analyses, de témoignages pour faire mémoire sur ce qui est en train de devenir un des plus grands massacres de notre siècle. Pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser ce livre ?
Alors, l'envie de réaliser ce livre repose sur le fait que la bande de Gaza étant sous blocus, et un blocus pratiquement hermétique depuis le 8 octobre, eh bien, je me suis dit qu'il était absolument vital et important de documenter ce qui se passait dans cette bande de Gaza à l'abri des regards, puisque les journalistes étrangers ne peuvent pas rentrer dans cette bande de Gaza, les humanitaires y rentrent, mais vraiment au compte-gouttes. Et donc l'idée s'est imposée, et en ça les éditions du Seuil avaient envie aussi de publier un livre sur ce sujet-là. Et donc on s'est mis à réfléchir pour savoir comment on pouvait documenter ce qui se passe à l'abri des regards dans cette bande de Gaza. Et avec l'idée vraiment qu'il fallait qu'il y ait la mémoire de ce qui se déroule actuellement dans cette bande de Gaza, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, puisqu'on sait très bien que le temps passe et que parfois on peut oublier. Alors finalement, même s'il y a ce blocus, c'est vrai qu'on a des informations sur ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a une population qui vit sur place et donc qui documente quand même ce qui se passe avec des journalistes palestiniens, des journalistes de Gaza qui permettent d'avoir des éléments d'information.
Mais ils deviennent aussi une cible d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas, mais il y a presque 200 journalistes qui ont été tués et beaucoup directement parce qu'ils étaient journalistes chez eux et ciblés. Hein.
Oui, absolument. Et donc on s'est dit que là aussi, c'était important de documenter quelle était la stratégie qui était mise en place par Israël à l'égard des journalistes, parce que si Israël ne veut pas que les journalistes internationaux rentrent, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait des témoins de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et donc les journalistes gazaouis sont effectivement des cibles. Tous les médias ont été touchés, les bureaux de l'AFP ont été touchés, les bureaux d'Al Jazeera ont été touchés, et la liste est longue. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a pas loin de 200 journalistes qui ont été visés, alors parce qu'ils sont journalistes, et une partie d'entre eux au moment où ils exerçaient véritablement leur métier, qui était de rassembler des informations pour les porter à la connaissance de la communauté internationale.
Depuis quelques semaines, la violence d'Israël prend des proportions extrêmement inquiétantes. On voit que la quête de vengeance de Netanyahou l'a amené à bombarder avec une violence folle le Liban, mais aussi la Syrie, l'Iran, l'Irak, le Yémen, qui sont aussi concernés par ces bombardements. Quel regard vous portez sur le fait que ce conflit s'élargit de plus en plus ?
Eh bien, c'est ça qui est profondément inquiétant dans ce conflit, c'est que ce conflit qui part de la bande de Gaza, qui est donc une réponse au massacre du 7 octobre, qui sont évidemment des crimes absolument épouvantables, crimes contre l'humanité, et qu'il faut évidemment dénoncer, et donc on comprend évidemment que Israël, après ces massacres, estime qu'il doit réagir par rapport à ce traumatisme que représentent ces massacres sur la société israélienne. Je rappelle quand même qu'effectivement, cet État d'Israël a été créé pour qu'il y ait un foyer protecteur pour l'ensemble des Juifs à travers le monde qui le souhaitent et qui viennent s'installer dans ce pays. Et que ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment, remet en question cette capacité qu'a l'État d'Israël d'apporter la protection à ses concitoyens. Donc qu'il y ait une riposte israélienne, on la comprend. Ce que moi, je ne comprends plus, et depuis maintenant de nombreux mois, c'est la violence de cette réaction et le fait de bombarder systématiquement des civils, et que non seulement ça atteint la bande de Gaza et la population gazaoui. Mais on voit maintenant cette volonté de ce gouvernement, quand même composé d'éléments d'extrême droite et des colons, qui ne se contentent pas, si je puis dire, de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais qui entendent maintenant régler leurs comptes aux combattants de Hezbollah. Et qui vise quoi, finalement, derrière ça? Évidemment, c'est l'Iran qui est visé. C'est comme si l'occasion était donnée aujourd'hui à Netanyahou, eh bien, d'en finir avec ce qu'il estime être la menace iranienne. Et cette menace iranienne qui a pris effectivement des formes très diversifiées depuis maintenant des années et des années, quand on voit la capacité d'influence que l'Iran veut avoir sur ce Moyen-Orient à travers ce qu'on appelle des proxys, hein, donc des milices qui sont proches de l'Iran. Et donc vous avez cité les houthistes au Yémen, mais également les milices irakiennes financées par l'Iran. Et donc tout ce réseau dans la région est visé aujourd'hui par Israël, qui considère que, en raison des massacres du 7 octobre, eh bien, le moment est venu vraiment d'essayer de mettre un terme à tout ce que Israël considère comme étant une menace. Alors, est-ce que c'est une menace réelle? Est-ce que c'est une menace qui est exagérée? Ça, après, on peut en discuter dans le détail. Mais en tous les cas, l'objectif, effectivement, de Netanyahou aujourd'hui, c'est vraiment de profiter de ce moment pour, une bonne fois pour toutes, tenter de réduire cette menace. Là où on peut se poser la question, c'est est-ce qu'on peut réduire une menace de cette façon-là? Là, bien évidemment, moi, j'ai mis les plus grands doutes, parce que je ne suis pas sûre que, en créant autant de violence, on attire en échange des volontés de paix des populations qui subissent la violence de ces bombardements.
Alors, au moment où on enregistre cette vidéo, Israël semble préparer une riposte très violente contre l'Iran. Iran qui est un pays d'ailleurs que vous connaissez particulièrement bien. Qu'est-ce qui risque de se passer d'après vous?
Alors, difficile hein, de faire des plans quand on voit une situation qui est aussi compliquée, aussi trouble. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël va réagir parce que suite à l'envoi de pratiquement 200 missiles il y a quelques semaines maintenant par l'Iran sur Israël, Israël estime qu'il se doit de répondre. Alors, il y a toutes les discussions autour des cibles. Alors, on parle des sites nucléaires iraniens, puisque l'obsession d'Israël, c'est la question nucléaire de l'Iran. Hein, Israël ne veut absolument pas que l'Iran puisse se doter de cette capacité. Et ça, c'est un vieux projet israélien de lutter contre ce que représente cette capacité qu'aurait l'Iran de posséder cette arme nucléaire. Alors, on sait que les Américains ont dit aux Israéliens qu'il était hors de question de s'attaquer aux sites nucléaires, parce que là, on peut rentrer dans un cycle de violence que plus personne ne maîtriserait. Mais on sait aussi ce que veulent dire les lignes rouges et comment Israël respecte les fameuses lignes rouges américaines. Donc on peut être sceptique sur la capacité qu'aurait Netanyahou à écouter ce qu'ont dit les Américains à ce propos. D'autres considèrent que les installations pétrolières, c'est une autre cible possible, et là qui peut faire très mal à l'Iran, parce que aujourd'hui la situation économique de l'Iran quand même est très très problématique hein, en raison des sanctions qui s'imposent à ce pays. Et donc le fait d'attaquer les installations pétrolières iraniennes voudrait dire que l'Iran ne peut plus du tout exporter de pétrole. Or, on sait que même si l'Iran est sous sanctions et que normalement il ne peut pas vendre son pétrole, en fait il arrive à le vendre à certains pays. Et donc ça lui permet d'avoir une ressource financière indispensable pour le pays, puisque cette situation économique est dramatique et suscite beaucoup de contestations en interne, sur la scène intérieure iranienne. Donc effectivement, si Israël veut faire mal à l'Iran d'attaquer des installations pétrolières, c'est une cible qui peut tout à fait être envisagée. Après, on peut aussi envisager d'autres cibles, comme l'a déjà fait d'ailleurs Israël par le passé, qui est des cyberattaques. Et ça, on sait qu'Israël a les moyens, puisque Israël a déjà mené des cyberattaques contre l'Iran. Et ça, c'est peut-être moins spectaculaire, mais ça peut être tout aussi efficace pour atteindre justement les objectifs d'Israël, à savoir de mettre en difficulté et de retarder pour le plus longtemps possible l'accession de l'Iran à ce fameux enrichissement de l'uranium qui pourrait conduire à posséder l'arme nucléaire. Et c'est ça que Israël, par tous les moyens, veut absolument empêcher.
Mais s'il attaque l'Iran sur le pétrole pour lui faire mal, ça lui fera mal, mais ça ne va pas nous faire mal aussi à nous, parce que ça veut dire que le prix du pétrole va exploser. Dans ce cas-là, s'il rentre là-dedans aussi, on a l'impression que les conséquences sur le reste du monde ne sont pas dans le scope israélien.
J'ai quand même le sentiment aujourd'hui, quand on voit la stratégie qui est menée par Israël, que la stratégie d'Israël est avant tout une stratégie qui vise à faire attention à ses intérêts à lui et pas forcément à tenir compte des intérêts de ses partenaires, alors qu'on pourrait imaginer effectivement qu'Israël se doit de faire attention à ses partenaires. Mais on voit bien que là, il y a une stratégie jusqu'au boutiste et qui ne tient en aucun cas compte de ce que peuvent dire les alliés même d'Israël.
Et comme c'est votre sujet, l'Iran, qu'est-ce qu'ils veulent les Iraniens d'après vous ?
Alors, à mon sens, les Iraniens, eux, ne veulent absolument pas d'une guerre avec Israël, puisque la guerre avec Israël, ça veut dire une chose très concrète, c'est la guerre avec les États-Unis. Parce que qui est derrière Israël dans ce cas-là ? Ce sont les Américains. Et donc, les Iraniens savent qu'ils n'ont absolument pas les moyens de rentrer en guerre avec les États-Unis. Et un autre point important, c'est qu'avec le nouveau président iranien, qui est un plus ouvert que son prédécesseur, hein, qui est mort dans un accident ou dans, on ne sait pas très bien dans quelles conditions il est mort il y a quelques mois, mais le nouveau président qui a été élu à la tête de l'Iran est beaucoup plus ouvert à des réformes et lui souhaite reprendre le dialogue avec les Américains pour obtenir la levée des sanctions. Parce que ce nouveau président a compris que les tensions en interne, qui sont importantes, sont dues aussi à des conditions de vie de plus en plus difficiles pour la population iranienne, et que s'il veut sauvegarder à terme la République islamique, les fondements même de la République islamique, il faut absolument obtenir une amélioration des conditions de vie pour les Iraniens. Et donc ça passe par une reprise du dialogue avec les Américains pour obtenir la levée des sanctions. Donc une guerre avec les États-Unis va complètement à l'encontre de cet objectif qui est un objectif vraiment de ce président, nouveau président. Alors vous allez tout de suite me dire que le pouvoir est dual en Iran et qu'il y a le guide suprême qui n'est pas forcément sur la même ligne que le président de la République et que le guide suprême, lui, peut être dans une stratégie beaucoup plus guerrière que ne l'est le président. Il y a un équilibre qui se trouve entre les deux et donc les gardiens de la révolution, eux, sont plutôt dans une stratégie évidemment de défendre leurs intérêts et de garder la crédibilité de la République islamique vis-à-vis de ses alliés. Si l'Iran ne réagit pas du tout, eh bien évidemment ça met à mal tout le discours déployé par les gardiens de la révolution, estimant que l'Iran est une puissance régionale et qu'à ce titre, eh bien, elle veut avoir une influence, elle veut maintenir son influence et donc elle se doit de réagir. Et donc c'est tout cet équilibre qui est en jeu aujourd'hui, avec un guide suprême qui est quand même âgé, qui est malade, un nouveau président qui aimerait aller vers plus de réformes. Et donc, comment tout ça va s'articuler ? Eh bien, ça va aussi dépendre de la nature de l'attaque d'Israël et qui va contraindre ou non les Iraniens à réagir et jusqu'à quel point ils vont réagir.
Justement, sur l'Iran, on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet de l'Iran et le nucléaire. On sait qu'il y a eu un début de programme qui a été arrêté. Aujourd'hui, Israël a l'air de dire que l'Iran est à deux doigts de faire une bombe nucléaire. Les États-Unis disent non, pas forcément, ce n'est pas nos informations. Vous connaissez très bien l'Iran. C'est quoi un peu l'évolution et la vision du nucléaire pour l'Iran ? Et ce qui se passe, l'état des menaces, est-ce que ça risque pas de pousser l'Iran à justement vouloir développer une arme nucléaire ? Mais ils savent aussi derrière que ça risque de susciter dans ce cas-là une Arabie saoudite nucléaire et une Turquie nucléaire avec un Israël dont on sait qu'il est lui-même nucléaire.
Alors ce qui est sûr, c'est que pour l'Iran, l'Iran qui se considère et qui est une puissance régionale, il estime tout à fait légitime d'accéder à la technologie du nucléaire civil. Les Iraniens ont toujours dit qu'ils voulaient le nucléaire civil et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils n'aient pas accès à cette technologie leur permettant d'aller vers le nucléaire civil. Et l'accord qui avait été signé en 2015 avec les Américains et les Iraniens et les Européens, qui mettait justement tout ça sous contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, eh bien permettait de maîtriser, hein, de reconnaître à l'Iran le droit de disposer de cela dans un cadre civil. Et toutes les enquêtes qui ont été après menées par l'AIEA tant que l'accord a été signé, ont montré que l'Iran respectait complètement les termes de l'accord. Tout ça a été remis en question, vous vous souvenez, avec Donald Trump qui est sorti de ce fameux JCPOA qui est l'accord sur le nucléaire. depuis, l'Iran estime qu'il n'est plus tenu par les termes de cet accord et donc a continué à enrichir de l'uranium. Alors, ce que l'on ne sait pas exactement, c'est s'il est arrivé à ce qu'on appelle au seuil, c'est-à-dire au moment où on est presque au nucléaire militaire et qu'il suffit de quelques semaines ou de quelques mois pour accéder à la fameuse bombe. Là, tous les avis divergent entre ceux qui considèrent, qui sont opposés à ce que l'Iran dispose de cette arme et considèrent qu'ils sont déjà au seuil, et les autres qui sont moins persuadés de ce danger que représenterait l'Iran, qui considèrent qu'il n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que pour l'Iran, c'est une question importante, vitale, en tant que puissance régionale, de disposer de cette technologie et d'avoir accès au nucléaire civil, et qui ne s'interdit pas, si effectivement il se sent menacé, de pouvoir continuer pour aller au-delà vers le militaire. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y est pas et il faudrait encore un petit peu de temps. Qu'Israël mette ça en avant, c'est une évidence, parce que ça justifie, du coup, de pouvoir attaquer l'Iran. Donc ça, c'est une vieille rengaine, j'allais dire, d'Israël, maintenant depuis des années. L'Iran, c'est le grand méchant depuis l'avènement de la République islamique en 1979. Et à partir de là, l'Iran est devenu un pays ennemi. Et donc, il faut l'empêcher d'accéder à quoi que ce soit. Et effectivement, si tout ce scénario très, très noir qu'on est en train de dessiner arrive à se développer, évidemment que l'Iran serait d'autant plus tenté d'aller vers le nucléaire, même militaire, pour se défendre dans un environnement qui serait, à ses yeux, évidemment, très, très hostile. Et là, on rentre dans une course, évidemment, dramatique entre la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, tout le monde considérant qu'il n'y aurait aucune raison que l'Iran et qu'Israël dispose de cette arme nucléaire, alors que ce ne sont pas des pays arabes, vous aurez noté, et donc les pays arabes se sentiraient profondément menacés et en danger, et donc là, il y aurait une course pour l'Arabie Saoudite, la Turquie, mais l'Égypte aussi, qui a un vieux rêve depuis longtemps, mais elle n'a jamais eu les moyens de le faire, d'accéder à cette bombe nucléaire. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment est très inquiétant, parce que ça ne peut que conduire à une course à l'armement, et y compris, pourquoi pas, la question nucléaire qui s'impose dans ce débat à ce moment-là.
Alors, en Occident, il y a une couverture médiatique qui tend à minimiser les actes d'Israël, ou à tout moins essayer de les rapporter à une forme de proportionnalité en raison de l'attaque du 7 octobre. Est-ce que les attaques d'Israël vous semblent justifiées? Est-ce que Israël et Gaza luttent à armes égales?
Alors non, évidemment que les deux pays ne luttent absolument pas armes égales, puisque d'un côté vous avez un pays avec une armée, avec des moyens militaires colossaux, d'autant plus qu'ils sont fournis par les Américains qui disposent du matériel le plus sophistiqué qui soit, et que les États-Unis livrent à Israël son matériel le plus sophistiqué, parce que c'est un allié très fort pour Israël et pour les États-Unis. Donc il y a une force de frappe côté israélien qui est une force de frappe absolument colossale, et en face vous avez des combattants d'une milice, mais qui n'est absolument pas un État et qui ne dispose pas évidemment de ces mêmes méthodes. Dans ce rapport asymétrique, c'est vrai que le Hamas utilise des armes qui font très peur, qui est le terrorisme, qui sont des actes terroristes. Alors même si on peut discuter sur ce que veut dire terroriste ou pas, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais donc le fait que le Hamas était capable de mener l'opération du 7 octobre avec 1200 morts et 250 pris otages et dans des conditions absolument épouvantables, ça a tellement marqué les esprits que pour beaucoup, la riposte israélienne est justifiée, parce qu'il faut absolument arrêter la possibilité que le Hamas puisse mener ce genre d'opération. Mais le débat est un peu faussé, sans minimiser en aucun cas la violence des actes qui ont été commis par le Hamas, bien évidemment. Mais on ne peut pas renvoyer dos à dos Israël et le Hamas, et encore moins les renvoyer dos à dos, parce qu'il y a un élément que je voudrais ajouter qui me paraît essentiel pour comprendre ce qui se passe. C'est que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de ce qui se passe au Moyen-Orient, on a l'impression que le 7 octobre est tombé comme ça. Tout d'un coup, le Hamas a été pris de folie et a mené une opération délirante. Oui, l'opération est monstrueuse et délirante. Mais ça s'inscrit dans une histoire de ce Proche-Orient et dans une histoire du conflit israélo-palestinien. Une histoire qui, on va la faire commencer en 1948, à la création de l'État d'Israël. Et depuis 1948, eh bien, toutes les tentatives de créer un État palestinien n'ont pas abouti. Et donc, tout ce combat qui est mené par le Hamas, alors de la pire façon qui soit, et le drame, ce sont ces attentats du 7 octobre, qui finalement ont remis cette question palestinienne sur le devant de la scène, mais de la façon la plus terrible qui soit, la plus dramatique qui soit, mais qui était une façon aussi de dire, vous voulez que cette question palestinienne disparaisse, mais elle ne va pas disparaître, et nous, Palestiniens, nous n'allons pas disparaître. Mais je rajoute tout de suite que ce rappel a été fait, et j'insiste là-dessus, dans les pires conditions qui soient, et qui, au bout du compte, ne servent pas la cause palestinienne.
Et comment est-ce que vous qualifieriez ce que fait Israël à Gaza en ce moment ?
Pour moi, ce sont des massacres. Ce sont des massacres qui sont menés par cette armée israélienne, puisqu'on est loin d'une proportion qui est mise en avant par Israël. On est loin de tous ces propos sur cette armée éthique telle qu'Israël se revendique. Alors évidemment, l'explication qui est donnée, c'est qu'Israël largue des tracts pour prévenir la population de Gaza de quitter telle zone lorsqu'elle va être bombardée. Mais tout ça, honnêtement, ça n'est pas sérieux. On ne peut pas considérer que ces mesures sont des mesures de protection des civils. On voit bien qu'aujourd'hui, avec l'utilisation des armes telles qu'elles sont utilisées par l'armée israélienne, et on a tout un chapitre dans le livre qui parle de l'utilisation de ces armes, l'utilisation de l'intelligence artificielle. On voit bien que les armes utilisées par l'armée israélienne à Gaza visent à tuer et à détruire le plus grand nombre et non pas à viser des responsables du Hamas ou des combattants du Hamas. L'idée, lorsque l'on voit l'ampleur des destructions, eh bien, c'est de vraiment raser cette banque de Gaza pour que la vie ne soit plus possible à terme sur ce territoire. C'est vraiment ça qui ressort de l'analyse de la stratégie mise en place par Israël, c'est de rendre le territoire de Gaza invivable par l'utilisation de ces armes, par ces bombardements qui sont massifs et par le fait que plus personne, à terme, si ça continue encore, ne pourra vivre simplement sur ce territoire. Comment continuer à vivre alors que tout est rasé ?
Et comment vous voyez le débat actuel justement autour de cette qualification de ces massacres, pour savoir si ça rentre dans un cadre d'épuration ethnique, de crimes contre l'humanité, de génocide, puisque c'est le terme qu'emploient même des grands spécialistes israéliens de la Shoah, comme Ras Segal ou Omer Bartov, qui ont changé d'avis. D'ailleurs, Bartov avait dit au début, non, il ne faut pas exagérer, puis maintenant il dit, oh, oui, non, ok, je me suis trompé, là, on peut commencer sérieusement à employer ce mot-là. Comment vous voyez ce qui se passe autour de cette qualification ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, un certain nombre de positions ont évolué. Quand au début, au bout de quelques mois, certains ont commencé à utiliser le terme de génocide, moi, je me refusais à l'utiliser, estimant qu'on n'avait pas encore d'éléments suffisants permettant de qualifier ce qui se passait dans la bande de Gaza de génocide. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère parler de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de nettoyage ethnique. Moi, je considère, alors dans ma position, moi je ne suis pas juriste, je suis chercheuse, spécialiste de cette région, alors je m'abrite, si je puis dire aussi, derrière les juristes, et je considère que ça, c'est un débat qu'il faut laisser entre les mains de juristes et de leur laisser la possibilité après de pouvoir documenter suffisamment ce qui se passe pour pouvoir utiliser les mots adaptés pour définir ce qui se passe actuellement. De plus en plus, effectivement, on se dit que le terme de est applicable à ce qui se passe à Gaza. Mais vous savez, ce que je crains avec tous ces débats qu'il y a sur l'utilisation de tel terme plutôt que tel autre, c'est que parfois, ça empêche de regarder la réalité. Quand on passe son temps à cette discussion, on ne regarde plus ce qui se passe sur le terrain. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, parce que la guerre continue à Gaza, que des civils continuent à être tués tous les jours, c'est de continuer à documenter ce qui se passe. Et le travail de documentation sera un travail qui sera utile à la fin de la guerre pour les juristes qui travaillent sur ce droit international et qui auront les moyens, j'espère en tous les cas, de pouvoir qualifier de la façon la plus juste possible ce qui se déroule en ce moment sous nos yeux. Donc je ne dis pas que ça n'est pas important de travailler sur ce thème, c'est essentiel, mais moi j'estime que je n'ai pas les compétences, je ne suis pas juriste, et donc je préfère laisser ce débat. Ce qui n'empêche pas d'utiliser des termes forts comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité, qui ont été menés par le Hamas lorsqu'ils ont mené l'opération du 7 octobre, mais qui sont aussi menés aujourd'hui par l'armée israélienne, lorsque l'on voit les dégâts qui sont provoqués par les bombardements menés par cette même armée.
Merci à Agnès Levallois. Je vous dis à bientôt pour un nouveau replay Gaza Palestine. Shut up.